Ça va, frères et sœurs en Christ? Est-ce que vous allez bien? Bien, 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 bien. Alors, le psaume 103 nous montre l'expression du psalmiste dans sa manière de s'exprimer. Il déclare: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il répète: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et le voici qui exprime quelque chose qui, dans le cœur, dans la vie de l'enfant de Dieu, que je suis, que vous êtes, que nous sommes, une réalité comme quelque chose qui est vivant en soi. Il déclare: c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de miséricorde, d'abord de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse pour ceux qui ont de l'âge, comme moi. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés, et nous pouvons dire là, amen. On peut dire amen, amen. C'est le cas de le dire, on peut dire amen. Frères et sœurs en Christ, c'est un homme qui a expérimenté à maintes reprises la bonté de Dieu, son secours, son intervention, sa puissance, et de nombreuses fois, il a vu la main de Dieu intervenir et il a reçu exactement soit ce qu'il a demandé à Dieu dans ces circonstances particulières, ou soit ce qu'il attendait de la part de Dieu dans son intervention. Ailleurs, par exemple dans le psaume 34 au verset 2, ne cherchez pas, je veux simplement vous le citer, il peut déclarer: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui a une relation avec Dieu spirituelle. Il a fait avec lui des expériences personnelles et particulières. Et au travers de ses propos, il montre qu'il connaît l'Éternel Dieu, qu'il le sert et qu'il sait lui-même ce que Dieu est pour lui. Mais là, nous le voyons dans ce psaume 103, avoir une autre attitude que ce que je viens de vous dire dans le psaume 34. Dans le psaume 34, il dit: je bénirai l'Éternel en tout temps. Mais dans le psaume 103, voici qu'il mentionne mon âme. Ah, il dit mon âme. Cela veut dire qu'il met en évidence la partie spirituelle. Parce qu'en effet, l'âme, notre âme, votre âme, mon âme, c'est la partie spirituelle en moi qui serait à définir comme le principe de la vie consciente de mon être. Mon âme a conscience de Dieu. Et si mon âme a conscience de Dieu, le psalmiste, lui, comme moi, comme nous, comme vous, il dit non seulement mon âme bénit l'Éternel, mais il rajoute que tout ce qui est en moi, c'est-à-dire toute la partie spirituelle, mon esprit, mon âme, ma conscience, tout cela s'élève pour bénir Dieu. Alors, frères et sœurs en Christ, quand le psalmiste fait ça, non seulement il est sur le terrain de la louange, il loue Dieu, parce que la louange, vous le savez, c'est quelque chose qui est important quand je viens rendre le culte à Dieu. Au fait, qu'est-ce que c'est que rendre un culte à Dieu? Vous avez remarqué que je n'ai pas dit qu'est-ce que c'est qu'aller au culte. Non, on ne va pas au culte, mais on va rendre le culte à Dieu. Car quand je dis rendre le culte, je vous place littéralement sur un terrain spirituel divin qui nous amène par l'intelligence renouvelée à comprendre que si je parle de rendre, on ne peut rendre que ce qu'on doit. Et à l'égard de Dieu ce soir, le vrai adorateur que je suis aussi un débiteur. Je dois quelque chose à Dieu. Je lui dois la louange. Il consiste à dire les merveilles de Dieu, ce qu'il est et ce qu'il a fait. Est-ce que c'est pour cela que je suis venu ce soir? Ah oui, je sais qu'on peut dire amen, c'est vrai. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a certains qui, se disant enfants de Dieu, lorsqu'ils viennent au service, ils sont là présents, mais leur esprit vagabonde un peu à droite et à gauche. Ils pensent à leurs soucis, la famille, les difficultés, comment ils vont finir le mois. Enfin, toute une chaîne de références qui vont dévier leur esprit et l'amener à vagabonder et à errer pour pouvoir les détourner de l'essentiel. Or, ce soir, frères et sœurs en Christ, en venant rendre le culte à Dieu, je voudrais vous rappeler ceci, que dans le processus divin, quand on parle de rendre culte, cela signifie littéralement rendre les hommages. Et la semaine dernière, j'avais pris soin d'expliquer aux enfants de Dieu que derrière l'aspect de rendre le culte ou rendre les hommages, il y a quatre verbes qui seront le fil conducteur du service du culte pour l'enfant de Dieu. Le premier verbe, c'est rendre les hommages en regardant. Et ce soir, le Saint-Esprit dans ce culte nous donne à fixer les yeux sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Alors, je me suis laissé aller, frères et sœurs en Christ. La semaine dernière, je ne l'avais pas fait, mais le Saint-Esprit m'a arrêté dessus et il a en quelque sorte permis que j'approfondisse le sujet pour pouvoir entrer derrière les mots pour tirer des paramètres spirituels et mettre en évidence dans le partage du sujet ce que notre Seigneur veut nous communiquer ce soir. Rendre les hommages en regardant. Ça veut dire que ce soir, dans le culte que je suis venu rendre à Dieu, le Saint-Esprit, en m'amenant à regarder à Jésus, va me donner le centre principal d'intérêt. Est-ce que ce soir, Jésus est le centre principal de ce service du culte? Ou c'est le pasteur que vous êtes venu admirer? Alors, si vous êtes venu admirer un homme, votre place n'est pas ici. Rendre les hommages en regardant. Le centre d'intérêt de ce service ce soir, c'est la personne de Jésus-Christ. Le Christ, Fils de Dieu, dites avec moi, mort pour nos péchés, mais ressuscité pour notre justification, glorifié, intronisé à la droite de Dieu et intercédant en notre faveur. Mais allons plus loin. Mais revenant pour chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est là le centre de notre intérêt ce soir, la personne de Jésus. Alors si, moi, pasteur gentil, dans ce service du culte, je vous parlais de quelqu'un d'autre, vous auriez raison de me dire, pasteur gentil, arrêtez! Parce que si vous ne parlez de quelqu'un d'autre que Jésus, vous proclamez votre folie. Mais que Dieu m'en garde. Ce soir, je pourrais dire, avec le psaume 45, la déclaration du psalmiste, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Alors, si ça bouillonne dans mon cœur, je puis dire que mon œuvre est pour le roi. Et si mon œuvre est pour le roi, je puis le définir, tu es le plus beau des fils de l'homme. Et quand je te définis comme le plus beau des fils de l'homme, obligatoirement, je t'écoute. Et la grâce est répandue sur tes lèvres. Ah, je voudrais que ma langue soit comme la plume de Nabil l'écrivain. Parce que mon œuvre est pour le roi. Pour qui est ton œuvre ce soir? Rendre les hommages en regardant. C'est-à-dire le Saint-Esprit met en évidence ce soir la personne de Jésus comme étant le centre principal d'intérêt ce soir. Pourquoi je vous dis cela? Dans l'évangile de Matthieu chapitre 18 verset 20, car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis, je suis au milieu d'eux. Écoutez, lorsque le Saint-Esprit dans l'évangile de Matthieu mentionne ceci, c'est pour mettre en évidence la personne de Jésus, le centre de tout rassemblement où il est glorifié. Et s'il est le centre du rassemblement, obligatoirement, c'est pour que au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, tous les regards convergent vers le centre. Rendre les hommages ce soir dans ce culte en regardant à Jésus. Tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as des épreuves, tu as des combats, oui, certes. Mais quand tu viens rendre le culte, Jésus-Christ doit être le centre d'intérêt du service du culte. Et quand il est le centre d'intérêt du service du culte, que tu as les yeux sur lui, alors maintenant, il te dit, regarde le Père. Et en t'amenant à regarder le Père, nous sommes sur le terrain de l'évangile de Jean, au chapitre 1er, versets 16 à 18, où il nous a parlé que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Revenant de mission, après qu'il eut envoyé les 70 en mission, ils vont s'exclamer devant Jésus. Il dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus dit, Alléluia, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. La puissance du malin a été ébranlée dans les lieux atmosphériques. Cependant, Jésus leur dira, c'est pas ce qui doit être votre priorité. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et voici que Jésus va s'adresser au Père. Il va louer Dieu. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors quand Jésus est le centre d'intérêt du service du culte, je regarde vers lui, et lui me fait regarder le Père. Car ils sont indissociables l'un et l'autre dans leur action, dans leur décision et dans leur volonté. Et quelle est la volonté du Seigneur ce soir pour moi? C'est lui qui a fait de moi, dites avec moi, un vrai adorateur. Rendre les hommages en regardant. Deuxièmement, rendre les hommages, mais en regardant, on va monter plus haut. Rendre les hommages en admirant. Ce soir, je suis venu pour admirer Jésus. Alléluia. Je le regarde, mais... Alors, vous savez ce que c'est qu'admirer dans le sens du culte où le Saint-Esprit nous fait regarder à Jésus ce soir? Cela signifie littéralement considérer avec plaisir ce qu'on juge supérieur. Alléluia. Considérer avec plaisir ce qu'on juge supérieur. Alléluia. Oh, Frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés, oh, quand le Saint-Esprit me fait regarder Jésus centre d'intérêt du service du culte, je ne peux pas simplement le regarder, mais il va me faire admirer Jésus. Vous savez comment le prophète Ésaïe, dans le chapitre 9 de son livre, prophétiquement va nous parler ou va montrer Jésus? Vous ne savez pas? Bien, eh bien, vous allez le découvrir avec moi. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Mes bien-aimés, vous savez que Jésus est là ce soir, n'est-ce pas? Et ce que nous le faisons en sa présence. Nous le faisons sous son regard. Béni soit son saint nom. Alors, Ésaïe, le chapitre 9, versets 5 à 6. Car un enfant nous est né, alléluia, un fils nous est donné. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. On le nommera Père éternel et Prince de la paix. Sa mission? Donner à l'Empire de l'accroissement, mais aussi une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et quand je vous dis, frères et sœurs en Christ, que dans le culte que nous sommes venus rendre à Dieu ce soir, le premier verbe, c'est regarder comme étant le centre, Jésus le centre d'intérêt du culte que nous sommes venus rendre à Dieu. Le deuxième verbe, c'est le verbe admirer, considérer avec plaisir ce qu'on juge supérieur et avoir de l'admiration. Alors, je me suis laissé aller à penser, et vous serez d'accord avec moi, vous qui avez fait de grandes écoles, qu'on ne peut admirer que ce qui est admirable, ou ce qui est admirable ne peut être qu'admiré. Jésus est admirable. Alors j'admire ce soir celui qui est admirable. Il est admirable. Et quand je dis admirable, je puis simplement comprendre qu'il n'y a personne qui soit semblable à lui. Personne. Quand je vois ses exploits, quand je vois ses œuvres, et quand j'écoute prophétiquement le psalmiste parler de lui, déclarant et communiquant la pensée de Dieu concernant prophétiquement Jésus, dans le psaume 89, au verset 20, le psalmiste mentionne ceci. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. Alléluia. J'ai prêté mon secours à un héros. Et quand je vous dis ce soir que dans ce culte, si Jésus est le centre d'intérêt vers lequel le Saint-Esprit ce soir nous fait regarder, et si nous sommes conduits à l'admirer, c'est parce qu'en l'admirant, le Saint-Esprit nous montre en sa personne le héros de Dieu. Qu'est-ce qui qualifie un héros? N'est-ce pas n'est-ce pas, ses exploits, ce qu'il a fait, sa bravoure, et tout ce qui est répandu comme témoignage de son intervention dans de multiples situations. Oh, ce soir, frères et sœurs en Christ, il y a un cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alors même ce soir, si tu voudrais compter les bienfaits de Dieu, certainement tu t'en souviendrais de quelques-uns, mais laisse-moi te dire que je suis persuadé, comme moi, qu'on en oublierait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas compter le nombre de fois où Dieu est intervenu. Souvent nous en avons eu connaissance, mais il y a des interventions divines qui ont été faites à notre insu. Mais oui, j'en ai pas eu connaissance, mais Dieu est quand même intervenu. Et tout au long de notre vie, comme son enfant, il nous assure sa protection, il intervient, nous garde, nous protège, dirige, aplanit, il crée des circonstances, il les dirige, il réalise, enfin Dieu, il fait ce qu'il veut dans chacune de nos vies, mais ce soir, il veut que nous soyons au rang de ceux qui, en lui rendant le culte, non seulement regardent Jésus comme étant le centre d'intérêt principal du service, mais en même temps, il nous fait admirer Jésus. J'admire ses exploits. Nul n'est comparable à toi. Écoutez, le Saint-Esprit dans l'Épître aux Hébreux, j'ai noté Hébreux le chapitre 9, je crois. Hébreux 9, ah. Oui, c'est un texte que j'aime beaucoup parce que en l'aimant beaucoup, la référence, c'est la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Hébreux 9, non, excusez-moi, c'est pas Hébreux 9, c'est Hébreux 2, 9, ah oui. Hébreux 2, au verset 9. Et vous allez comprendre pourquoi il faut l'admirer ce soir. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Nous le voyons, tiens, ah, quand je lis « nous le voyons », ça veut dire que le Saint-Esprit nous le montre. Et quand le Saint-Esprit nous le montre, c'est pour que nous puissions le regarder. Et en le regardant, il élève le niveau pour que nous puissions l'admirer. Nous le voyons couronné de gloire à cause de la mort qu'il a soufferte. Alors, quand vous voyez quelqu'un couronné, s'il est couronné, ça veut dire qu'il est... Ah, il est roi. S'il est couronné, ça veut dire qu'il est roi. Le couronnement du roi. Et laissez-moi vous dire que quand vous lirez le livre des rois, et vous verrez comment Dieu a élevé le fils de David nommé Salomon, il lui a dit que il n'y aura aucun roi qui sera son semblable, ni avant ni après. N'est-ce pas? Mais dans son ministère, Jésus a rappelé, ici, il y a plus que Salomon. Est-ce que Jésus l'a dit pour se valoriser? Non. La clé, elle est là. Salomon a reçu de la part de Dieu la sagesse. N'est-ce pas? Mais Christ a été fait sagesse. Ah, c'est pas la même chose. Vous me suivez toujours, frère? Alléluia. Écoutez, si vous voyez que je bondis un petit peu trop sur les stades, ne faites pas trop attention. C'est parce que le Saint-Esprit en moi se réjouit dans la présence de Jésus. Il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Mais nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. à cause de la mort qu'il a soufferte, ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Et puis, le verset 10 nous amène, frères et sœurs en Christ, dans un élargissement de la pensée de l'Esprit pour nous amener à comprendre quelle était la volonté de Dieu. Il convenait en effet que celui par qui et pour qui sont toutes choses, et celui par qui et pour qui sont toutes choses, nous avons compris, c'est Dieu. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, vous, moi, et tous les enfants de Dieu de tous les siècles, il est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut.
Alléluia.
Jésus a été élevé à la perfection, mais par les souffrances. Cela veut dire que derrière ce que nous lisons, nous voyons qu'il y a une perfection dans l'acceptation de souffrir de notre Seigneur Jésus-Christ pour satisfaire tout ce qu'exigeait la justice et le jugement de Dieu. Et pour remplir toutes les conditions pour permettre à Dieu de libérer sa grâce, mais aussi de faire en sorte que nous en soyons les bénéficiaires, comme ses enfants. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, le prince de notre salut, Jésus, a été élevé à la perfection par les souffrances. C'est pourquoi, dit le Saint-Esprit, il n'y a pas de honte à les appeler frères. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas de honte à les appeler frères. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Qui ? Jésus. Afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et béni soit Dieu ce soir, nous en faisons partie. Voilà le héros de Dieu ce soir. L'admirable, celui que nous admirons dans sa mort et dans sa résurrection, celui que nous admirons dans la victoire qu'il a remportée sur le diable, celui qui avait le pouvoir de la mort, celui qui a vaincu le monde, le péché, les démons, les mauvais esprits, la mort et le séjour des morts. Celui qui, après sa résurrection, peut déclarer dans l'Apocalypse, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. Voici, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. » Et qu'est-ce qu'il rajoute après ? « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Oui, il est admirable ce soir. Et dans le culte que je rends à mon Dieu, si je suis là pour le regarder ce soir comme étant le centre d'intérêt principal de ce service, mais le Saint-Esprit me fait admirer Jésus, le héros de Dieu. Et vous savez ce que le Saint-Esprit va faire pour nous donner un petit peu à saisir dans cette admiration? Le Saint-Esprit va se livrer à un jeu de comparaison. Où ? Dans l'Épître aux Hébreux. Vous voulez y aller avec moi ? Bien. Regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, comme c'est beau. Alors, regardez avec moi, premièrement, dans Hébreux, le chapitre 1er. Hébreux 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus après avoir fait la purification des lieux célestes, s'est assis à la droite de Dieu. Frères et sœurs, en Christ, s'asseoir à la droite de Dieu, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. Mais le Saint-Esprit nous montre Jésus assis à la droite du Père. Assis, position de repos, l'achèvement de sa mission terrestre. Assis à la droite du Père, intronisé, le Père pleinement satisfait de l'œuvre du Fils. Mais assis à la droite de Dieu pour montrer sa supériorité. Et le jeu de comparaison va entrer en ligne de compte dès Hébreux chapitre 1er, verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Prophétiquement, il avait été dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Mais cette prophétie concernait Jésus. Et quand nous lisons qu'il est assis à la droite de Dieu, c'est l'accomplissement de la prophétie. Jésus est supérieur aux anges. Les anges, ce sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Mais Jésus est venu mourir pour nous donner le salut. Aucun ange n'est mort pour le pardon de mes péchés. Jésus est supérieur aux anges. Après, Hébreux le chapitre 3 nous montre Jésus supérieur aussi. Hébreux 3, Hébreux 3 au verset 4. Non, verset 3, Hébreux 4, 3. Non, pardon, excusez-moi, Hébreux 3, 3. Hébreux 3, 3. Car il a été jugé digne d'une gloire, dites avec moi, d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour un témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Jésus est supérieur à Moïse. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, mais comme serviteur. Mais Jésus, il est fidèle comme fils sur la maison. Et sa maison, c'est nous. Comment ça, nous? Il a dit, je bâtirai mon église. Nous sommes l'église que Jésus bâtit. Et eu égard à cela, il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à son engagement. Sa bouche dit et sa main l'accomplit. Une fois qu'on est entré dans son salut, personne ne peut nous en retirer sauf nous-mêmes. Si nous le renions, eh bien il nous reniera aussi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui persévéreront pour sauver notre âme. Alors comme le psalmiste ce soir, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Mon âme bénit l'Éternel.
Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Jésus est supérieur aux anges. Jésus est supérieur à Moïse. Jésus est supérieur à Josué. Car Josué n'a pas pu donner au peuple le vrai repos. Or, si Josué avait donné au peuple le vrai repos, Dieu n'aurait pas annoncé un autre jour. Disant, si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Josué, il a fait ce qu'il a pu. Il est allé aussi loin que Dieu l'a permis. Mais pour nous qui faisons partie du peuple de Dieu, ce n'est pas dans le sabbat que nous trouvons le repos. Pourquoi ? Parce que même si je pratiquerais le sabbat, ce n'est pas ça qui me donnerait le repos. Le repos, ce n'est pas dans la pratique d'œuvre. Le repos, c'est à l'intérieur. Et lorsqu'on dit qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, il faut comprendre que ce n'est pas le repos du sabbat qui était donné à Israël comme le peuple juif. Mais celui qui entre dans le repos se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Mais moi, je me repose ce soir sur l'œuvre de Jésus. Voilà pourquoi, comme enfant de Dieu, le repos n'est pas dans l'observation de la loi, dans l'observance d'ordonnances, le repos est en Christ, à l'intérieur. C'est le travail du Saint-Esprit. Mais cela ne peut être qu'à partir du moment qu'on a expérimenté le salut. C'est parce que j'ai expérimenté le salut que ce soir je suis amené dans ce culte, non seulement à bénir Dieu, mais à fixer mes yeux en regardant Jésus, centre d'intérêt principal du culte que je suis venu rendre à Dieu. En regardant Jésus, le Saint-Esprit me conduit à l'admirer, considérer la personne avec non seulement une grande attention, mais voici le mot, considérer avec plaisir. Alléluia. Je le considère avec plaisir. Ça veut dire en le regardant, en le contemplant, en l'admirant, je me réjouis. Eh bien, c'est ça, c'est à l'intérieur. Mon âme se réjouit quand je regarde Jésus. Parce que je ne comprends pas comment j'ai pu être l'objet d'un amour si grand, si profond, si merveilleux, si glorieux, si extraordinaire, si incommensurable. Il y a tous les adjectifs que vous pourrez rajouter. Écoutez, nous sommes sur un terrain que je définirai comme un mystère. C'est un mystère. Vous savez ce que c'est qu'un mystère ? Ce n'est pas une petite boule de chocolat avec un centre demeuré. Ça, c'est pour le désert, ça. Je vous parle du processus divin. Un mystère, c'est une vérité que Dieu tient cachée et qu'il révèle en partie en son temps. Ça veut dire que même dans un mystère révélé, il y a toujours une partie mystérieuse. C'est là que nous sommes sur le terrain divin. Mais tout en étant mystérieux, je le vis à l'intérieur. Alléluia. Je regarde Jésus. J'admire le héros. Oui, tu es mon héros. Alléluia. Tu es extraordinaire. Tu es glorieux. Jésus, je t'aime. Permettez que le Saint-Esprit me donne à savourer ce que je vois, celui qui nous est montré ce soir. Alléluia, tu es merveilleux, Jésus. Mon Seigneur, mon âme t'aime. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit mon Seigneur, je t'aime. Hein? Mon âme t'aime, Seigneur. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme t'honore. Mon âme t'élève. Oh Jésus, quel est extraordinaire tu es. Mon Seigneur, un jour mes yeux te verront. Je te verrai tel que tu es. Alors, je te prie ce soir, crée en moi de bonnes dispositions, s'il te plaît. Afin, Seigneur, de ne rien laisser qui voudrait s'interposer entre toi et moi. Afin que je puisse avancer, persévérer, combattre. Te servir du mieux que je peux Malgré mes faiblesses, mes lacunes et mes manquements, Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime mal. Je t'aime si peu en comparaison de l'immensité de ton amour pour moi, mais je t'aime de tout mon cœur. Il y a un cantique que le frère Gérard nous a fait chanter dimanche dernier, quel repos, quel céleste repos, mais que ce cantique est beau. Et d'après ce que j'ai entendu comme témoignage, c'est un père qui avait perdu ses deux enfants, pour qu'il a l'ambition, c'est un serviteur de Dieu, et il a l'embauchement de son épouse, il ne savait pas comment lui annoncer la triste nouvelle. Le Saint-Esprit lui a inspiré ce cantique. Quel céleste repos. Frères et sœurs en Christ, lorsque véritablement nous sommes objets de la grâce de Dieu, quand nous sommes devenus de vrais adorateurs, mais il y a des principes que le Saint-Esprit établit en nous, et lorsqu'on les vit comme Dieu veut qu'elles soient vécues, mais je vous assure qu'on est le plus heureux des hommes. Vous savez que je vous ai assez parlé ce soir ? Ah oui, je vous ai assez parlé ce soir. Le Saint-Esprit me donne la direction de conclure maintenant. Ce qui va vous obliger à revenir la semaine prochaine. Prions le Seigneur.